Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Binge Audio.
Salut chers auditeuristes, c'est Camille Test. Parfois dans la rue ou dans les transports en commun, je regarde passer les gens. Je ne les connais pas, mais ce que j'ai en tête, c'est un certain nombre de statistiques. Par exemple, je sais qu'au moins une femme sur 10 sera violée dans sa vie. Je sais que dans chaque classe en moyenne, 3 enfants ont été incestés. Je sais aussi qu'au collège et au lycée, on a une chance sur 5 de subir du harcèlement scolaire. Parmi les inconnus que je croise, je sais que beaucoup vivront des deuils, des accidents de la route, du harcèlement moral, des problèmes d'addiction, un cambriolage ou une rupture déchirante. Je sais enfin que dans cette foule anonyme, les individus racisés, LGBTQI+, handicapés, précaires, migrants ou mineurs, ont statistiquement plus de risques que les autres de violence. En fait, quand je regarde tous ces gens, ce que je vois, ce sont des dizaines et des dizaines de traumatisés potentiels. Alors bien sûr, on va le voir, le trauma n'empêche pas toujours de vivre sa vie, d'élever des enfants ou de mener à bien toutes sortes de projets. Mais contrairement à l'adage un peu stupide selon lequel tout ce qui ne nous tuerait pas nous rendrait plus forts, il me semble qu'on vivrait dans une société bien plus heureuse si les traumatismes n'étaient pas si souvent ignorés, incompris, négligés ou mal pris en charge. Alors dans cet épisode, j'ai pour ambition qu'on devienne un peu moins ignare sur la question du traumatisme. Et pour ça, j'ai invité celle qui m'a tout appris ou presque sur le sujet, la neuroscientifique Camille Allen. Vous pouvez l'applaudir.
Bonsoir, merci de m'avoir invitée, Camille.
Avec plaisir. Camille, tu es docteur en neurosciences, en sciences de la vie et de la santé. Tu as été formée aux thérapies comportementales et cognitives, à l'EMDR, ce qui est une méthode de désensibilisation et de retraitement des souvenirs traumatiques. On y reviendra plus tard dans cet épisode. Tu es formée à la yoga-thérapie, on en reparlera aussi. Et tu es chargée de recherche clinique au sein de l'établissement public de santé de Ville-Évrard, en région parisienne. Ton travail, là-bas, il porte sur la prise en charge non médicamenteuse du trouble de stress post-traumatique complexe. Tu travailles notamment avec des psychologues qui aident les patients à restructurer leur mémoire traumatique. À nouveau, on va y revenir dans un instant. Tu donnes des conférences en neurosciences, tu travailles aussi pour une compagnie d'assurance sur la question des traumas liés à la guerre. Qu'est-ce qui t'a poussée à travailler sur le trauma, à te passionner en fait pour cette question ?
Alors, d'abord, je me suis passionnée avant tout pour la question des émotions. Je galérais avec mes propres émotions. Et puis, c'était en 2015, je travaillais à la Pitié-Salpêtrière. Ça faisait 10 ans que j'avais les yeux dans le microscope, j'enregistrais des neurones. Donc, j'étudiais le cerveau à l'échelle des cellules, des neurones. Et j'avais envie de changer d'échelle et d'étudier le cerveau à l'échelle des comportements humains. Donc, je me suis formée. D'abord, c'était ma première porte d'entrée dans ma reconversion professionnelle, c'était un diplôme universitaire de thérapie comportementale et cognitive. Et là, j'ai découvert le monde de la psychologie d'abord. Ça m'a beaucoup apporté pour moi. Et puis ensuite, dans le cadre de cette formation, j'ai fait un stage. À l'époque, ça s'appelait le centre de psychothérapie. Aujourd'hui, ça s'appelle le centre de psychotrauma de Ville-Évrard. Et c'est au cours de ce stage que j'ai découvert le trauma. Et suite à ce stage, ils m'ont recrutée en tant que chargée de recherche sur le sujet.
Alors, on parle de plus en plus du trauma. Je pense notamment, moi je regarde beaucoup ce qui se passe sur YouTube dans les questions de santé mentale. Et depuis quelques années, il y a énormément de contenu, notamment américain, sur le trauma qui font des millions et des millions de vues. Je pense notamment à un médecin canado-hongrois qui s'appelle Gabor Maté, qui parle énormément de la question du trauma. Comment tu expliques cet engouement-là ? Parce qu'en fait, finalement, c'est pas un sujet dont on parlait énormément il y a 10 ans.
Je pense que de toute façon, il y a une libération de la parole donc autour des traumas, donc c'est déjà très bien et je pense que ça contribue à l'engouement, comme tu dis. Mais je crois aussi que les techniques qui sont disponibles aujourd'hui, les thérapies, les outils thérapeutiques qui sont disponibles et qui fonctionnent très bien, comme le MDR, participent à la diffusion de, en fait, c'est pas une fatalité et on peut traiter ces traumas.
Ouais, c'est peut-être moins tabou parce qu'en fait, finalement, maintenant, on sait qu'on peut en faire quelque chose et on va en parler hein, pendant une heure. On va se poser plein de questions sur le trauma. On va peut-être débunker certaines croyances avec toi. Avant ça, je voudrais qu'on accueille le psychiatre d'Encore Heureux, Daniel Batula. Bonsoir Daniel.
Merci, bonsoir.
En tant que médecin, dans ta formation de médecin et de psychiatre, est-ce que tu as beaucoup parlé du trauma ? Est-ce que c'était une question qui, on pourrait se dire, bah forcément c'est au centre des études de psychiatrie et finalement je crois pas.
Alors moi j'ai été formé entre 2014 et 2019 à Strasbourg en Alsace, donc c'est pour resituer. Et pendant ma formation, on n'a pas plus parlé que ça. C'était pas un sujet de base comme la dépression, le trouble bipolaire ou la schizophrénie. On parle rapidement de ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique par rapport au gros symptômes et souvent on fait référence aux traumatisés de guerre. Donc effectivement, c'est pas quelque chose qu'on a qui est très très développé, même si depuis 2018 en France, il y a ce qu'on appelle des centres régionaux de psychotrauma, là où Camille travaille, donc des CRP, et donc là c'est spécifique pour le traumatisme. Et là j'ai des collègues internes, jeunes, des internes qui sont en cours de cursus, qui sont formés là-dedans et qui vont, donc ça commence à venir de plus en plus. Mais à mon époque, ce qui est pas si lointaine, pas du tout.
Est-ce que tu as des patients qui viennent et qui te disent « Docteur, j'ai un trauma ?»
Alors, les gens ne viennent pas me dire qu'ils ont un trauma. Ils viennent, ils me disent « J'ai une dépression » ou « J'ai des symptômes de douleur » ou « Je vais mal », il y a plein de choses. Moi, j'ai plusieurs questions types que je leur pose. Et au deuxième ou troisième entretien, une fois qu'il y a une bonne alliance thérapeutique, une fois que les gens sont à l'aise et qu'on a travaillé un petit peu leur côté positif, je leur demande spécifiquement s'ils ont déjà vécu des traumatismes dans leur vie et je leur fais un parallèle avec la douleur pour leur expliquer que c'est quelque chose de très subjectif. Donc je leur explique à chaque fois, je leur dis est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de traumatisant ? Et le traumatisme, c'est un peu comme la douleur. Si vous cognez au coin de la table, vous pouvez ne pas avoir mal. Et puis si je me cogne moi au coin de la même table de la même façon, ça peut me faire très mal. Donc c'est très subjectif. Et l'idée, c'est que les gens puissent se dire « Ah oui, là, je suis en terrain avec un psychiatre, je suis en confiance. Lui, il peut avoir mal. Donc moi, je peux exprimer peut-être mes traumatismes. » Et les gens s'ouvrent assez rapidement.
Alors justement, pour comprendre de quoi on parle, Camille, je vais te demander si tu es d'accord de... c'est un gros morceau de cet épisode, je pense, de nous expliquer en fait, qu'est-ce que c'est que le trauma ? En fait, quand on parle de trauma, on parle de psychotrauma. Je veux bien que tu nous fasses un grand descriptif de ce que ça peut être.
Oui, alors en effet, on parle de trauma. Trauma, c'est le raccourci, c'est l'abréviation de traumatisme. D'abord, disons que le traumatisme, il peut être physique ou psychique. Et là, ce soir, on parle de traumatisme psychique. Bien que lors d'un grave accident ou d'une violente agression, on peut souffrir des deux types de traumatisme, hein, physique et psychique. Mais là, on va s'attarder au trauma, au psychotrauma. Le nom officiel, qui est un peu plus long, c'est le trouble de stress post-traumatique. Et en fait, on pose le diagnostic de trouble de stress post-traumatique lorsqu'il y a le développement de toute une série de symptômes suite à un événement ou des événements qui ont sérieusement menacé l'intégrité physique ou psychique de la personne ou de ses proches. Et parmi ces symptômes du trouble de stress post-traumatique, j'ai dit, il y a toute une série, donc il y en a beaucoup, mais les plus caractéristiques, les plus remarquables et voilà, marquants, sont les souvenirs intrusifs, comme les flashbacks, les reviviscences. Et là, les personnes revivent l'événement à l'identique, comme s'il se reproduisait dans le présent. Et c'est très perturbant, il n'y a pas le contrôle de ça. Et en fait, comme c'est extrêmement perturbant et terrifiant, tous les symptômes de stress sont associés aux troubles de stress post-traumatique, donc les symptômes de stress qu'on peut avoir en dehors du trauma et qui sont l'hypervigilance, l'hyperréactivité, l'évitement de tout ce qui pourrait nous rappeler l'événement et déclencher les flashbacks.
L'hypervigilance, c'est quoi exactement ?
L'hypervigilance, c'est quand on est tout le temps sur le qui-vive. On ne se repose jamais, on a tout le temps l'impression qu'il va arriver une catastrophe. Voilà. Et l'hyperréactivité, elle se traduit de plein de manières. Soit on a ce qu'on appelle la réaction de sursaut. Donc au moindre bruit, une porte qui claque, mais pas trop fort, on va sursauter. Et extrêmement. Voilà, tout ça, c'est très caractéristique d'un trouble de stress. Et en particulier, c'est là dans le trauma aussi, beaucoup.
Alors on parle du trauma, mais en fait, il y a plusieurs types de trauma dans les psychotraumas.
Oui, parce que là, donc, ce que j'ai décrit, c'est assez facile à diagnostiquer puisqu'il y a ces symptômes très remarquables et puis il y a les événements qui sont rapportés, comme disait Daniel, dès que les personnes sont un peu en confiance, elles confessent ce qu'elles ont pu vivre, elles nous parlent de ça. Donc ça, c'est assez facile. Mais si je dis ça comme ça, ça veut dire qu'évidemment, il y a une forme de trauma qui n'est pas facile à diagnostiquer. D'abord parce que tous ces symptômes caractéristiques peuvent ne pas être dominants, voire peuvent ne pas être présents du tout. Et ça s'appelle le trauma complexe. Cette forme de trauma, le trauma complexe, il survient surtout lorsque les victimes subissent des maltraitances pendant des années sans pouvoir y échapper. Et donc, ça concerne évidemment les enfants qui subissent des maltraitances au sein de leur foyer. Alors, dans de telles conditions de vie, les enfants connaissent des moments de terreur et de détresse si intenses qu'un mécanisme d'autoprotection exceptionnel se déclenche dans leur cerveau. Et leur cerveau va se mettre à produire de très puissantes endorphines qui vont avoir pour effet d'anesthésier physiquement et émotionnellement l'enfant. Donc, grâce à ce système, transitoirement, temporairement, la douleur physique et morale est soulagée. Mais la conséquence, c'est qu'à l'âge adulte, il peut persister généralement un état d'anesthésie émotionnelle qui s'alterne avec des excès soit de colère, soit de panique et d'autres conséquences aussi qui sont tout ce qui est faible estime de soi, difficultés relationnelles. Tous les troubles de stress en général qu'on a vus précédemment sont là aussi quand même, des troubles. Puis j'ai pas dit aussi, mais dans toutes les formes de trauma, il y a des troubles de la concentration, des troubles du sommeil, des troubles de l'attention, voilà. Mais en tout cas, pour le trouble complexe, il y a cette alternance entre accès de colère ou de panique et anesthésie émotionnelle. Et une dernière chose, c'est que ces puissantes endorphines, elles ont empêché, soit partiellement, mais parfois totalement, la formation des souvenirs en lien avec les maltraitances. Donc, les victimes ne peuvent parfois pas rapporter leur maltraitance. Donc, entre l'absence de récits de maltraitance et l'absence des symptômes intrusifs, le diagnostic peut ne jamais être posé.
Mais c'est vrai qu'on entend souvent des gens qui disent « moi, j'ai pas de souvenirs de mes 5 ans à mes 12 ans », par exemple. C'est des histoires qui, malheureusement, sont assez fréquentes.
Voilà. Donc, s'il y a aucun souvenir de cette période de vie, c'est probablement parce qu'il y a eu des traumas et que ça, c'est pas forcé, mais c'est probable.
Et qu'on soit clair, on parle évidemment de violences physiques, mais c'est pas forcément des violences physiques. Ça peut être aussi des négligences plus subtiles, entre guillemets.
Exactement. La conséquence de négligence, c'est du trauma complexe. C'est les symptômes du trauma complexe se retrouvent pour les négligences.
Aujourd'hui, on a tendance, il me semble, à négliger un petit peu le trauma complexe. C'est-à-dire qu'on va beaucoup parler de stress post-traumatique. On a évidemment fait, il y a plein de films sur, par exemple, les gens qui reviennent de guerre ou de choses comme ça. Peut-être moins sur la question des traumas complexes. La plupart des gens connaissent moins ce sujet, je crois.
Exactement. Puis, mais en réalité, même la médecine, il est assez récent. Il a été introduit dans la classification internationale des maladies de l'OMS en 2019. Donc, c'est récent. On commence à comprendre ce trauma-là depuis très peu de temps.
Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre stress et traumatisme ? Parce que finalement, dans ce que tu décris, on pourrait dire oui, c'est genre des gens très stressés, quoi.
Oui, non. Alors la grande différence entre stress et trauma, c'est que dans le trauma, les situations que l'on est amené à vivre sont incompréhensibles, impensables, inimaginables, mais dans le premier sens de ces termes. Et donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de réseau de neurones qui représente cette situation dans le cerveau des personnes qui vivent ça. Et en d'autres termes, si je ne parle pas de réseau de neurones, ça veut dire qu'il n'y a pas de situation équivalente ou ressemblante stockée en mémoire dans le cerveau.
Donc je comprends bien, on vit une situation et en fait, ça ne nous rappelle rien de ce qu'on a vécu. Donc
exactement.
En fait, on n'a pas le plan, la carte, la map pour
exactement.
Savoir et réagir.
Exactement.
Et du coup, une sorte de bug se produit.
Et ce n'est pas obligé que ce soit... Pour pas être en trauma, il faut avoir en mémoire, stocké en mémoire les situations, même si on ne les a pas forcément vécues nous-mêmes, mais on a entendu, on sait que ça existe, on l'a peut-être même vu en fiction. Mais le trauma survient quand, il n'y a même pas de fiction qui décrit ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est une page blanche.
C'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que du coup, le cinéma, des livres, des podcasts, évidemment, peuvent nous aider finalement, peuvent déjà nous donner des clés qui peuvent, lorsqu'il nous arrive quelque chose
exactement.
À nous, faire face.
Exactement.
C'est l'importance des témoignages. Donc quand les gens racontent des choses, ça permet d'imaginer, ce genre de situation existe, on peut y faire face involontairement et comment est-ce que la personne, comment est-ce qu'on peut réagir? Si moi ça m'arrive, comment est-ce que je pourrais réagir? Ça, c'est important justement pour développer la plasticité cérébrale et pour un petit peu réagir face à un trauma.
Exactement.
Majeur.
Non, j'allais dire, c'est intéressant parce que ça permet, je trouve, de dépasser un peu cette idée morale de oui, bien sûr qu'il faut écouter la parole des victimes, des premiers concernés, mais c'est en fait aussi, je trouve ça chouette de se le rappeler parce que en fait, ça peut donner des clés à tout le monde et des clés de survie en réalité.
Exactement,
à tout le monde,
exactement. Parce que si je continue à expliquer le mécanisme, ce qui se passe, c'est que en temps normal, dans une situation stressante mais non traumatique, c'est ce qu'on a en mémoire donc qui va permettre de réguler à la baisse notre réponse au stress. Parce que ce qu'on a en mémoire nous permet de comprendre la situation et de savoir à peu près quoi faire, au moins à peu près quoi faire. Dans une situation traumatique, il n'y a pas cette mémoire, donc on est en état de sidération, d'incompréhension, de figement comportemental, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi faire, on n'a aucune idée de ce qui nous arrive, et donc la réponse au stress ne va pas être régulée. Elle va rester extrêmement élevée. Et ça, c'est là où ça commence à être embêtant. Ça va empêcher. Et dans les jours qui suivent, la formation de la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire épisodique de l'événement, ne va pas être construite, se former. Et la mémoire épisodique, c'est celle qui intègre tous les éléments spatio-temporels de la situation. Ça s'est passé là-bas, ça s'est passé dans tel contexte et ça s'est passé à tel moment, qui maintenant appartient au passé, normalement. Mais comme cette mémoire, elle ne se forme pas pendant le trauma, alors il n'y a pas de notion de passé. La mémoire qui nous permet de savoir que ça s'est passé dans le passé n'a pas pu se former.
D'où le fait que la personne revit constamment.
Exactement. Il n'y a que la mémoire émotionnelle qui, elle, s'est formée directement, tout de suite, pendant l'événement. Et elle s'est bien formée et bien consolidée instantanément. Et elle, elle est dépourvue des aspects spatio-temporels. Donc, c'est pour ça que quand elle se réactive, eh bien, elle nous redonne à vivre l'événement comme s'il se produisait ici et maintenant.
Pour reprendre ce que tu as expliqué en termes moins scientifiques, souvent j'explique aux gens, les souvenirs c'est une bibliothèque avec des livres dedans et normalement on les prend et on arrive à les ranger, donc on peut y accéder facilement, il suffit qu'on les cherche et on sait comment est-ce qu'ils sont classés. Et quand il y a un événement traumatisant qui se passe, le livre on n'a pas réussi à le ranger, il est tombé par terre et on glisse des fois dessus ou il nous revient sans qu'on ait choisi d'ouvrir ce livre et de le lire à cette page-là. Donc en fait on a des moments qu'on ne choisit pas, des passages de ce livre-là, donc des souvenirs qui nous viennent au visage, et en fait, on ne peut pas l'enlever, on n'arrive pas à les ranger. Et l'objectif en tant que thérapeute, c'est d'apprendre à reprendre ce livre, à le travailler un petit peu, puis ensuite à le ranger correctement pour pouvoir y faire accès quand on a envie, et puis surtout ne pas y accéder quand on n'a pas envie.
Alors pendant la préparation de cet épisode, on a reçu un témoignage qui m'a fait réaliser qu'en quelque sorte, on pouvait être traumatisé sans le savoir. On va l'écouter, puis je vous ferai rebondir.
Pendant longtemps, j'étais à mille lieues d'imaginer que j'étais quelqu'un de traumatisé. Mais dans ma tête, j'imaginais des scénarios atroces où mes proches mouraient violemment. Un jour, j'ai parlé à une psy, on a travaillé à arrêter ces scénarios, et là sont remontés des souvenirs sensoriels, comme des effleurements intrusifs, au niveau de mon pénis, suivis de souvenirs d'inceste. Mon cerveau avait vraisemblablement mis en place un écran pour ne pas affronter ce qui m'est arrivé dans l'enfance.
Oui, ça illustre le mécanisme que je disais. Donc, quand il a subi ces violences, pour se protéger, son cerveau a sécrété les endorphines, mais qui du coup a empêché ensuite la formation de la mémoire de la violence. Et cette mémoire-là, elle s'encode normalement, quand elle s'encode correctement, au niveau des hippocampes. Donc les hippocampes, c'est comme l'animal marin, mais c'est deux structures dans le cerveau. On en a une sous l'hémisphère droite, une sous l'hémisphère gauche. Et c'est là où est stockée cette mémoire épisodique quand elle s'est bien stockée. Mais les hippocampes sont très sensibles aux hormones du stress. Et donc, quand elles sont excessives, et puis surtout avec cette ambiance anesthésiante qui a lieu pendant le trauma, ça empêche l'hippocampe, les réseaux de neurones de l'hippocampe de faire leur travail et de coder pour le souvenir. Mais ce sont de rares structures où il y a une neurogénèse, c'est-à-dire la fabrication de nouveaux neurones. Parce que le cerveau, tous les jours, il fabrique des nouvelles connexions, mais pas des nouveaux neurones. Les nouveaux neurones sont fabriqués très localement et au niveau des hippocampes. Donc ça veut dire qu'on peut récupérer, donc même si les neurones ont été abîmés, au bout d'un moment, la neurogénèse peut remplacer ces neurones abîmés et grâce à la mémoire qui est stockée par ailleurs, la mémoire émotionnelle, elle est stockée dans d'autres structures, il peut y avoir un transfert d'informations et on peut finir par reconstruire la mémoire épisodique qui a été manquante. Et donc là, il a commencé à avoir des levées d'amnésie et il va commencer à fabriquer son souvenir. Donc c'est le début du traitement, en fait.
Alors ce qui est intéressant, on ne l'a pas laissé dans ce témoignage, mais c'est que c'est une personne qui est actuellement en thérapie. Et donc du coup, bah voilà, peut-être que c'est aussi du fait de cette thérapie que ces souvenirs commencent à remonter. Ça m'amène à la question suivante. Est-ce que c'est important, quand on sent qu'on a peut-être des traumas, bah, d'aller consulter, de savoir qu'on est traumatisé? Et surtout, pourquoi c'est important, en fait, de ne pas rester comme ça avec ces traumas?
Oui, c'est très important parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que même si il y a cette amnésie traumatique qui fait qu'on n'a pas conscience qu'on a vécu un trauma, il y a quand même un mal-être qui est là. Et c'est du coup le trauma complexe. Hein. Je n'ai peut-être pas dit, mais dans le trauma complexe, si je l'ai dit quelque part, il y a cette amnésie très forte. Mais il y a d'autres symptômes et des symptômes embêtants. L'anesthésie émotionnelle qui s'alterne avec les accès de colère, c'est dur à vivre.
Pour soi et pour les autres.
Exactement.
En réalité, ce qui va dans le sens de dire, il me semble, une personne traumatisée est souvent aussi potentiellement un élément compliqué pour ses proches. On sait par exemple, selon l'OMS, que qu'une personne qui a vécu des violences dans l'enfance a beaucoup plus de chances de les transmettre à ses propres enfants.
Exactement. Parce que justement, ces accès de colère, ils impactent l'entourage, ils peuvent avoir lieu sur l'entourage, donc notamment les enfants. Donc pour éviter de reproduire ce qu'on a vécu, mieux vaut traiter ces traumas. Et puis, de toute façon, cette amnésie traumatique, c'est une bombe à retardement. Parce que quand il y a une levée d'amnésie, alors il y a tous les symptômes intrusifs avec les flashbacks qui reviennent et qui peuvent être complètement terrifiants et mettre en détresse la personne. Donc mieux vaut anticiper, vérifier, traiter, qu'avoir une levée spontanée d'amnésie et se prendre tous les symptômes intrusifs sans crier gare.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train d'émerger, allez consulter plutôt qu'à la moitié de vos vacances, il se passe un truc complètement dingue parce que vous n'avez pas anticipé, même si évidemment ça doit être extrêmement compliqué dans ces cas-là de se dire « Ok, je vais aller consulter ».
Oui, moi je trouve que le meilleur indice, c'est quand même cette dérégulation de l'humeur et des émotions, où on sent qu'on est baladé et que par moments on est complètement en décalage et pas connecté émotionnellement avec les autres. Et par moments, on est dans les émotions extrêmes. Donc ça, c'est un signe. C'est ça qui est compliqué dans le trauma complexe, c'est qu'on va chez le psychiatre avec ses symptômes. Le psychiatre peut très bien nous diagnostiquer bipolaire, borderline, TDAH, dépressif. Avant de tomber sur s'il y a une grosse amnésie traumatique et qu'on rapporte que ses symptômes, on peut être en diagnostic un peu à côté pendant un petit moment, mais ça vaut le coup de faire la démarche.
Comme dans le témoignage où on l'a entendu, donc on a des symptômes de dépression, de la régulation émotionnelle qui est assez difficile, mais il y a aussi des déclencheurs. Là, c'est une question d'abus sexuel, donc les personnes qui ont vécu des abus sexuels dans leur enfance, il y a aussi des grosses complications dans leur sexualité de vie de jeune adulte ou d'adulte.
Exactement.
Et des déclencheurs comme ça. Si vous avez des choses qui vous terrifient ou des difficultés qui sont un peu inhabituelles, c'est aussi un symptôme et c'est aussi l'idée de se dire « Ah, c'est quand même assez étrange que j'ai autant de difficultés à faire quelque chose que la plupart des gens arrivent à faire. Peut-être que ça sera intéressant de consulter, de réfléchir s'il n'y a pas eu un traumatisme derrière tout ça. »
Exactement, les déclencheurs, c'est vrai que c'est un point hyper important. Il y a certains déclencheurs qui sont complètement inconscients et du coup, les gens ne comprennent pas pourquoi justement ils se sont mis en colère, etc. Mais quand même, quand il y a des patrons qui se répètent, des schémas qui se répètent, on peut se dire, ah oui, mais en fait, je me mets à chaque fois très en colère ou je sors de moi à ce moment-là, dans ce contexte-là. Donc, c'est à creuser parce que c'est potentiellement le déclencheur du trauma.
Alors, sur les causes du trauma, on a écouté un témoignage qui nous parlait d'un acte d'inceste, mais en fait, le trauma, ça peut venir un peu de plus en tas de choses différentes, j'allais dire presque tout et n'importe quoi. Je vous propose qu'on écoute plusieurs témoignages sur le sujet.
Suite à une agression en ville, j'ai été traumatisée et je le suis encore aujourd'hui. J'ai tout simplement peur de sortir seule de chez moi.
Entre l'âge de 12 ans et l'âge de 20 ans, ma mère a traversé une grande phase de précarité. J'ai dû le cacher à mon père car je voulais encore moins aller vivre chez lui, où je me sentais pas en sécurité émotionnellement. J'ai mis longtemps à comprendre que la précarité, couplée aux mensonges et à la solitude qu'elle implique, m'avait profondément traumatisée.
Est-ce que ces témoignages disent que, en réalité, tout est potentiellement traumatique ?
C'est un peu pour prendre la métaphore sur la douleur quand on se cogne. Oui, mais peut-être ce qu'il faut dire, c'est que un même événement traumatogène peut conduire chez certaines personnes à développer un trouble de stress post-traumatique et chez d'autres pas du tout. Enfin, tout est événement fortement stressant et potentiellement traumatique, mais pas pour tout le monde non plus. Donc il y a des facteurs de risque à développer des traumas et puis il y a des facteurs génétiques aussi.
Et par exemple, comme facteur de risque, qu'est-ce qu'on peut avoir ?
Justement, les antécédents traumatiques. Par exemple, la personne qui dit qu'elle s'est faite agresser dans la rue et que depuis elle a développé les troubles de stress post-traumatique, peut-être que cette personne a vécu des traumas dans l'enfance, mais dont elle pense pas. Et c'est pour ça que un événement à l'âge adulte va déclencher les troubles de stress post-traumatique. Avec une autre enfance, le même événement n'aurait peut-être pas déclenché les troubles de stress post-traumatique.
Est-ce que ça veut dire que du coup, on peut se prémunir des traumas, faire tout un tas de choses, mettre en place tout un tas de choses pour, s'il nous arrive quelque chose, être le moins traumatisé possible, ou ça fonctionne pas comme ça ?
Non, ça fonctionne pas vraiment comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est faire attention à l'enfance, en fait, parce que là, c'est quand même la clé. Même si, encore une fois, il y a une partie génétique, notamment les femmes ont plus de chances de développer un trouble de stress post-traumatique que les hommes, parce que c'est la génétique liée à la sensibilité du circuit de la réponse au stress dans le cerveau.
Mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'on est dans un système patriarcal où statistiquement, on vit plus de violence ?
Aussi. Mais ça, du coup, c'est environnemental. Ça rentre pas dans la génétique. Mais les deux, du coup, pour les femmes, vont dans le sens d'augmenter le facteur de risque. Parce que voilà, mais en fait, nous, c'est vraiment une question hormonale. Hein, c'est nos hormones qui rendent plus sensible le circuit. Et puis aussi, le volume. Je parlais des hippocampes tout à l'heure, cette mémoire épisodique qui, à la fois, nous permet de comprendre les situations et de réguler la réponse au stress pendant un événement. Mais aussi, cette mémoire qui nous permet, après un événement, d'apaiser, de réguler la mémoire émotionnelle si elle s'est bien formée. Donc les hippocampes et la mémoire épisodique sont hyper importants. Et on a vu que les gens qui génétiquement avaient un volume hippocampique plus bas que la moyenne étaient plus à risque de développer des traumas.
Ça, c'est des choses qu'on peut pas contrôler. Dans ce qu'on peut contrôler, vous parliez de l'enfance. Là, je me mets à la place d'un parent qui écouterait ça et qui se dirait « Ok, mais comment je fais pour être sûr que je suis pas en train de créer un environnement traumatique pour mes enfants ?» Est-ce qu'on a des conseils à donner à ces personnes ?
Il y a déjà des contextes de loi. Il y a des travaux qui ont été aussi faits par rapport aux violences. Il y a des lois qui sont passées sur l'interdiction de violences physiques envers des enfants. Il y a eu des levées de boucliers par rapport à ça. Il y a des pays, par exemple, comme la Suède où la fessée est interdite depuis longtemps. En France, c'était plus compliqué. Ça reste une violence physique. C'est quelque chose, même si ça peut paraître anodin pour certains parents ou certaines personnes, ça reste un événement qui peut, même s'il arrive qu'une fois, ça peut être traumatisant, mais en général, c'est parce que ça arrive régulièrement ou ça arrive de façon assez régulière, ça fait un trauma et ça fait ce qu'on appelle un trauma complexe parce que l'enfant va intégrer ça comme une situation assez banale. J'ai une patiente la semaine dernière qui me dit « Mais j'ai pas vécu de traumatisme, mais mes parents, ils avaient tendance un peu à me dénigrer et puis, bon, des fois, j'avais des claques un peu, mais je comprenais pas toujours pourquoi est-ce que ça arrivait. Et puis bon, au final, maintenant, j'ai un peu peur, je suis un peu en hypervigilance tout le temps. Ben oui, parce qu'en fait, quand vous étiez enfant, vous étiez déjà en hypervigilance parce que vous saviez pas ce qui allait se passer, vous saviez pas si vous alliez avoir une claque ou pas. Et donc, ça crée quelque chose. Donc, cette question par rapport aux violences, on peut déjà se dire, ok, la violence physique, c'est une des premières choses à éviter. Puis après, il y a aussi de la violence verbale, hein, quand on insulte des gens, quand on les rabaisse de façon régulière et systématique, ben, ça crée une mauvaise estime d'eux, ça crée un trauma complexe à nouveau. Et donc là, les gens vont développer à l'âge adulte des dépressions ou ce genre de choses parce que on leur a toujours rabaissé, on les a toujours dénigrés. Voilà. On peut parler d'autres types de violences qui ont l'air plus graves ou qui vont plus marquer, hein, si on vous enferme dehors, si on vous prive de nourriture et ainsi de suite. Là, les gens vont avoir beaucoup plus de ils vont y faire attention, ils vont le rapporter plus rapidement. Mais des violences ordinaires, ce qu'on appelle des violences ordinaires, ou la négligence, donc quand on ne prend pas suffisamment soin des enfants, quand on si c'est des bébés, ben on change pas leur couche, on les laisse dans leur pipi et dans leur caca, ou si c'est des jeunes enfants et on leur change pas leurs vêtements, on les aide pas pour se laver et ainsi de suite, c'est de la négligence parentale et ça crée du trauma au fur et à mesure que ça rentre dans le cerveau de l'enfant.
Mais le problème, c'est que les parents qui se posent la question comment éviter que mon enfant soit traumatisé, c'est pas ceux-là qui sont les plus maltraitants, les plus négligents justement. Mais
il y a des choses sur lesquels on peut travailler en tant qu'individu. Après, il y a aussi des contextes sociaux. On sait par exemple que des personnes en situation de précarité ou des femmes ou des personnes racisées, des personnes minorisées sont statistiquement ont plus de traumas. Vous pouvez pas décider de sortir de la précarité comme ça pour éviter le trauma en réalité.
Oui, mais après, c'est pas non plus une fatalité. C'est pas parce qu'on est précaire que on grandit dans un environnement traumatisant. Hein. C'est pas la pauvreté qui est traumatisante.
D'ailleurs, c'est hyper important de le rappeler aussi que en fait, c'est que c'est comme d'autres sujets, les violences, l'inceste, l'alcoolisme, etc. Tous les milieux sont touchés, évidemment.
Tout à fait. Et plus on est sujet à des discriminations, à du harcèlement, parce qu'une discrimination, ça entraîne du harcèlement. Si vous êtes le seul petit enfant à avoir des lunettes dans une classe, en général, vous allez avoir des surnoms, des choses qui vont revenir, et ça peut être quotidien. Si vous êtes le seul petit enfant à pas avoir des vêtements de marque, dans un endroit où il y a que des enfants qui ont des vêtements de marque, ça va, au fur et à mesure, ça peut déclencher quelque chose, ça peut provoquer quelque chose. Donc effectivement, le contexte dans lequel on vit sociétal peut entraîner aussi des traumas complexes. Donc c'est aussi important de s'en rendre compte et de voir dans quel environnement on a grandi.
C'est intéressant ce que tu dis sur les vêtements de marque parce que pour moi, ça dit quelque chose de plus général qui est la question de la hiérarchie en fait. Dès lors qu'on est dans une société verticale où on se hiérarchise, notamment par rapport à, je sais pas, l'argent, les marques, etc., on crée potentiellement des traumas.
Non, mais moi je fais l'avocat du diable, mais c'est pas parce qu'on n'a pas de vêtements marque et qu'on en souffre à l'école qu'on va forcément développer un trauma. Ça dépend aussi de l'ambiance qu'il y a à la maison et de ce qu'en disent les parents et de comment les parents accompagnent l'enfant face à cette différence qu'ils peuvent vivre aussi.
Alors, dès lors qu'on a admis, par exemple, l'existence d'un trauma dans sa vie, se pose la question de qu'est-ce qu'on en fait ? On l'a évoqué un petit peu, on va continuer juste après.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Dans cet épisode d'Encore Heureux, on parle du trauma avec la neuroscientifique Camille Allen, le psychiatre Daniel Batoula. Je vais poser une question un peu provocante. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop avec le trauma ? C'est-à-dire, est-ce que de même qu'on a des hauts potentiels intellectuels autodiagnostiqués, on n'aurait pas des traumatisés autodiagnostiqués ?
Comme on l'a déjà un peu dit dans l'introduction, le syndrome de stress post-traumatique simple, les gens s'en rendent compte très rapidement, assez facilement. Le syndrome de stress post-traumatique complexe, c'est depuis 2019 qu'il est dans la classification de l'OMS. Moi, pendant mes études, on m'en a pas parlé plus que ça. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très récent, dont les professionnels ne sont pas entièrement tous formés, et donc les individus ne vont pas venir en disant j'ai un trauma complexe, parce que on vient à peine de découvrir ça, donc c'est encore sous-diagnostiqué à mon avis.
Puis en plus, dans le trauma complexe, il y a une faible estime de soi, donc c'est pas le genre à s'auto-diagnostiquer, ils sont au contraire, ils sous-estiment l'ampleur de leur trauma.
Et là, ça me donne envie de m'adresser potentiellement à des gens qui écouteraient le podcast et qui seraient un peu dans ce truc de ils en font trop avec leur trauma, les woke, quoi. Ce qui arrive parfois, enfin, moi je peux témoigner de choses comme ça. Qu'est-ce qu'on répond par exemple à un parent qui trouve ça un peu exagéré que ses enfants viennent lui parler potentiellement des traumas qu'il a eu pendant l'enfance avec le parent en question, ce qui arrive souvent. C'est vrai que c'est aussi quelque chose de... En tout cas, moi, je le vois autour de moi. C'est peut-être la trentaine qui fait ça, mais je sais pas, dans mes amis, on est plusieurs à aller un peu régler des comptes avec notre famille. Il y a des familles face auxquelles ça passe plutôt bien, d'autres, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces parents qui réagiraient un peu en mode « Oh, ça va, de mon temps, on n'en faisait pas autant avec nos traumas ?»
La première des choses, je pense que c'est à pas minimiser ce que la personne a vécu. Donc, comme on l'a le parallèle d'avant avec la douleur, oui, t'es tombé dans l'escalier, t'as mal. Ouais, d'accord. C'est ta douleur, je l'entends, c'est ton traumatisme, d'accord. Et puis la deuxième chose, c'est d'essayer de pas faire des parallèles en disant, oui, mais moi, je me suis déjà tombé du sixième étage et ça m'a pas fait mal. Oui, très bien pour toi. Donc, on évite de sous-estimer et on évite de comparer en général le traumatisme. Et puis, alors c'est très dur, mais quand on est parent, l'objectif c'est de dire oui, j'ai fait des erreurs. Ça arrive, et en fait, ça arrivera tout le temps. Ça n'existe pas, les parents parfaits et les enfants parfaits non plus. Donc oui, moi j'ai fait des erreurs, toi aussi t'en as fait, mes parents en ont fait. J'ai essayé de ne pas reproduire ce qui m'a traumatisé moi. Peut-être que j'ai fait autre chose qui t'a traumatisé toi. Mais par contre, l'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que ça soit de moins en moins traumatisant. Oui, à ton époque, tu finissais pas ton assiette, on te laissait toute la nuit devant ton assiette jusqu'à ce que tu finisses de manger. Ou alors le lendemain, on te le resservait et pendant toute une semaine. C'est des témoignages que je vous raconte. Là, maintenant, on se dit, c'est peut-être quand même assez violent de resservir la même ratatouille toute la semaine à mon enfant, qui en plus n'est pas réchauffé, n'est pas bien. Voilà. Donc on va éviter ce genre de choses, on va éviter de les enfermer dans une cave. On sent que c'est quand même très traumatisant. On va peut-être leur parler mal, mais on va pas être violent dans la violence physique. On va réaliser que la violence physique, c'est ce qui est très fort, et donc on va dire, on va essayer de diminuer le stade de violence en se disant voilà.
Alors en 2019, il y a une étude de Peyton Jones, qui est chercheur à l'université de Harvard, qui s'est intéressée à une des solutions, une petite solution qu'on met en place de temps en temps vis-à-vis de la question du trauma, ce sont les trigger warnings. Donc les trigger warnings, ce sont ces mentions qu'on met avant certains contenus pour prévenir que le sujet est potentiellement traumatique. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux notamment. Et son étude montre qu'en réalité, cette solution solution-là, en tout cas cet outil-là, il est pas forcément très efficace, voire contre-productif. Il montre notamment que ces précautions pourraient renforcer de manière un peu antithérapeutique le fait que les survivants voient leur traumatisme comme un élément central de leur identité. Si ça vous intéresse, je vous renvoie à un article de Slate très intéressant qui a été écrit par une personne qui s'appelle Shannon Palu. Camille, quel est ton point de vue sur cette question-là ?
J'ai un point de vue sur cette question-là un peu plus général. De manière générale, je trouve que c'est vrai qu'il faut faire attention de pas condamner trop fort ou de pas sans arrêt rappeler que ceci est traumatisant, etc. Parce que ça peut être choquant pour les victimes, en fait, exactement. Moi, j'ai le cas de plusieurs patientes qui m'ont confié avoir développé tous les symptômes de leur trouble de stress post-traumatique quand elles ont réalisé que la société condamnait ce qu'elles avaient vécu et ce qu'elles avaient subi de la part de leurs proches. Donc, ça a été l'élément déclencheur. Et à chaque fois que la société condamne ou que ça fait les infos, enfin, à chaque fois qu'on en reparle, ça les remet dedans très fort et c'est antithérapeutique parce que même ça nous fait régresser, nous, dans le processus thérapeutique. Donc c'est attention à ça. C'est à double tranchant parce qu'il faut condamner absolument et en même temps condamner peut mettre en détresse les victimes. Donc j'ai pas trop de solutions mais je peux que constater.
On en parlait avant l'épisode et pour moi c'était quand même assez important de prévenir les gens du contenu qu'ils vont voir, que ça va être potentiellement violent ou potentiellement traumatisant. On va parler d'agression sexuelle dans cet épisode-là. Si vous avez vécu des choses comme ça et que vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça, ben, essayez de ne pas l'écouter. Je vais vous raconter la fin du livre, si vous voulez pas le savoir, ben, passez 5 minutes. Donc c'est pour prévenir un petit peu. Et en discutant tout à l'heure avec les deux Camille, on s'est dit que le fait aussi peut-être de surprévenir les gens, ça pouvait les bloquer parfois dans le statut de victime. Quand on a vécu quelque chose de très difficile, on passe dans un stade de victime parce qu'on se rend compte que ce qu'on a vécu, c'était pas normal et qu'on doit avoir une réparation par rapport à ça. Mais rester dans un statut de victime tout le temps, ça ne fonctionne pas, ça nous paralyse. Il y a un moment donné où il faut réussir à sortir de ça. Il y a une réparation qui peut être faite par de la société, par des condamnations, par de la discussion, par plein de choses. Et une fois qu'on arrive à réparer ça, on sort de ce stade de victime-là et ensuite on reprend une vie plus habituelle et on arrive à avoir moins de symptômes et à avoir plus de choses et moins de dépression.
Alors justement, ce que montre aussi cet article sur les trigger warnings que je citais à l'instant, c'est que finalement, si le contournement marche pas forcément, ou en tout cas est totalement imparfait, évidemment, on peut pas faire en sorte que les gens vivent dans un monde où il n'y a plus rien qui les réactiverait dans leur trauma. Ce qui fonctionne, bah, évidemment, ça paraît assez logique, hein, c'est un accompagnement thérapeutique pertinent, efficace, conséquent. Et justement, en France, est-ce que on est en mesure de fournir un accompagnement correct ? On va se poser la question juste après ce témoignage.
J'estime que je suis mal prise en charge. Je suis suivie en centre médico-psychologique par une infirmière référente et une psychiatre. Les rendez-vous sont très très éloignés les uns des autres. Et je n'ai pas d'autres soins. C'est mon copain et mes amis qui complètent ce suivi comme ils le peuvent.
Alors on l'a évoqué hein, notamment dans un autre épisode, il me semble l'épisode sur la dépression qu'on avait fait. En fait, l'accès aux soins thérapeutiques, l'accès à des psychiatres ou à des psychologues ou à d'autres accompagnements thérapeutiques n'est pas forcément bien réparti en France, Camille.
Oui, oui, c'est très représentatif de la situation qui est que dans les structures publiques, il y a plus de demandes que de thérapeutes disponibles. Il y a des listes d'attente terribles. Après, il y a beaucoup de thérapeutes qui travaillent, qui sont formés au trauma, qui travaillent en libéral, mais là, ça, c'est un gros budget pour se faire accompagner. Donc, c'est un problème.
Et comme on l'a dit encore une fois, hein, le syndrome de stress post-traumatique complexe, c'est quand même très récent, même pour les thérapeutes. Et donc, s'ils n'ont pas eu le temps de se former ou s'ils sont peut-être un peu moins intéressés par cette question-là plutôt que par le spectre 32 de la schizophrénie, ils vont aussi pouvoir... des fois, ils sont en difficulté parce qu'ils se disent « Bon, ben, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse comme formation ?» et ainsi de suite. Mais oui, c'est aussi bien l'accès aux soins que parfois les praticiens qui ne sont pas formés. Et il y a aussi une difficulté, hein, c'est que quand on est praticien et qu'on n'est pas formé, c'est aussi très difficile de dire ben en fait je ne peux pas vous aider moi, je vous conseille d'aller voir quelqu'un d'autre. C'est très difficile pour des médecins en général de dire qu'ils ne savent pas. Et parce qu'on est, éduqué à ça, on est éduqué à savoir, on est éduqué à ce que le patient vienne nous voir, on répond à la question, on sait. Et même si des fois on ne sait pas, les gens vont plutôt répondre n'importe quoi ou mal répondre plutôt que dire je ne sais pas. C'est très difficile pour tout le monde hein, de dire que je ne sais pas, mais c'est important de pouvoir dire je ne sais pas ou je ne suis pas suffisamment formé, je vous oriente plutôt vers d'autres collègues.
Je voulais simplement, en un mot, parce qu'on parle de la question de l'accès aux soins, rappeler que ces temps-ci, en France, il y a un débat sur la suppression de l'AME, donc l'aide médicale d'État pour les personnes étrangères, que les personnes étrangères peuvent être aussi des personnes qui arrivent de parcours de migration, qui peuvent être extrêmement traumatiques. Et donc là, en fait, on se retrouve dans un hiatus et une question très politique qui est comment peut-on laisser des personnes... cette loi n'est pas passée, enfin l'AME n'a pas encore été supprimée, mais il n'empêche que c'est important de se rappeler que c'est aussi ça la conséquence que ça peut avoir, c'est qu'on va laisser potentiellement des personnes polytraumatisées sans outils, sans accès à des accompagnements corrects sur ces questions. Camille, Alain, toi, tu travailles avec le yoga et l'EMDR c'est une méthode d'accompagnement du trauma qui a fait ses preuves. Est-ce que tu veux bien nous expliquer comment ça fonctionne? Pourquoi le yoga? Pourquoi l'EMDR?
Alors, les deux sont complémentaires. Avec l'EMDR, donc EMDR, on n'a pas encore dit ce que ça voulait dire. Hein. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ce qui veut dire en français désensibilisation et retraitement du souvenir traumatique par le mouvement des yeux. Donc historiquement, en effet, c'était avec un balayage du champ visuel droite-gauche où on devait suivre la cible qui balaye avec nos yeux pour faire le job, je vais expliquer lequel, dans le cerveau. On a gardé ce nom, mais en réalité, peu importe la modalité sensorielle, l'idée, c'est qu'il faut stimuler le cerveau, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, en alternance, avec une certaine fréquence. Et donc ça peut être, oui, un balayage oculomoteur, mais ça peut être aussi des sons droite-gauche dans les oreilles ou du tapping sur le bout des genoux, on tapote à un certain rythme. Et on fait ça quand et pourquoi? On fait ça avec la consigne que la personne démarre avec le souvenir traumatique et on stimule comme ça bilatéralement le cerveau. Et si on a la bonne fréquence, c'est assez rapide. Alors là, ça active les mécanismes de plasticité neuronale qui vont permettre de construire le souvenir, la mémoire épisodique dans les hippocampes. Et ensuite, simultanément, dès que ça s'est fait, ça affaiblit la mémoire émotionnelle, en tout cas de la charge émotionnelle. Le trauma est un souvenir, certes un mauvais souvenir, mais il n'est plus aussi vivace et il est dans la mémoire autobiographique épisodique.
Est-ce que de façon un peu simplifiée, on peut dire que l'EMDR permet de, en gros, de faire sauter le souvenir du trauma de la mémoire émotionnelle qui nous fait beaucoup réagir à la mémoire biographique qui, où on est un peu plus neutre vis-à-vis d'elle?
Alors, ça ne le fait pas sauter. Il restera en mémoire émotionnelle, mais en tout cas, il sera lui aussi, enfin la mémoire émotionnelle, c'est comme si quand on va y repenser, on aura une émotion, mais elle sera plus du tout extrême, ce sera plus des reviviscences, ça sera énormément atténué, ça sera juste voilà, la couleur associée à ce souvenir, la couleur émotionnelle, mais ça sera plus extrême grâce à la mémoire épisodique.
Alors justement, avant d'en arriver là, en fait, on pourrait se dire, bon bah super, on prend une personne qui a un trauma, puis on lui fait le EMDR et en 4 jours, c'est fini. En réalité, pour arriver à être capable de faire de l'EMDR, c'est pas si simple. Alors, tu utilises d'autres pratiques pour y arriver. Est-ce que tu peux nous expliquer?
Pour le trauma complexe, se confronter aux souvenirs traumatiques, c'est terrible. Donc l'idée, c'est pour faire en sorte que les personnes restent dans leur corps présentes avec nous pendant qu'on les désensibilise, qu'elles aient qu'une partie de leur cerveau qui aille dans le souvenir pendant qu'elles restent avec nous présentes, eh ben, il faut faire un gros travail psychocorporel. Et ça, le yoga le fait très bien. Donc finalement, on fait du yoga pour avoir la force et le courage de rester là pendant qu'on va aller dans le souvenir traumatique et le travailler.
En quoi le yoga permet ça?
Ben, le yoga, il y a plusieurs outils. On travaille le corps, la posture, les mouvements. On travaille le souffle et on coordonne les deux, on combine les deux. Et puis, il y a une posture mentale aussi. On travaille où poser son attention, comment la poser. Et c'est tout ça qui fait le travail, mais on peut un peu décortiquer. Et par exemple, pour tout ce qui est, oui, quand même, j'ai dit, on travaille, on retrouve force et confiance pour affronter le souvenir traumatique, mais parce que oui, on diminue le stress avec le yoga. Et quel est l'outil qui permet le plus de diminuer le stress dans l'outil yoga? Ça va être la respiration. Même si la posture compte, l'aspect mental compte, mais la respiration, c'est quelque chose qui joue sur notre neurobiologie. Et dès qu'on ralentit sa respiration, qu'on l'amplifie, qu'on la ralentit, qu'on décélère le rythme, ça active une partie du système nerveux qui est l'inverse de la réponse au stress.
Donc qui nous permet de trouver un apaisement, une forme de concentration.
Exactement.
Mais justement, est-ce que en une minute, tu peux nous apprendre à respirer comme ça, justement ?
Oui, alors respirer comme ça, c'est vrai que c'est très simple, mais ça demande juste de le faire. Donc là, je vais vous inviter simplement à peut-être, pour bien respirer, pour pouvoir bien mobiliser le diaphragme dans tout son degré de liberté, vous pouvez vous asseoir vers l'avant de la chaise et décoller le dos du dossier et commencer par... comme si vous poussiez un peu la chaise, elle ira pas plus bas, mais ça va ériger le dos. Essayez d'avoir les deux plantes de pied bien ancrées au sol, les deux pieds largeur du bassin. Et donc comme ça, on a une assise où on dit en yoga qu'on a le buste fier, la tête humble. Donc on continue à monter le dos pour pouvoir bien mobiliser le diaphragme. Et au départ, juste simplement, c'est observer sa respiration telle qu'elle est, sans vouloir forcément la changer. Et observer sa respiration, ça peut vouloir dire sentir l'air qui rentre et sort par les narines. Il rentre à chaque inspire, il ressort à chaque expire, réchauffé. Mais ça veut aussi dire observer, en plus de l'air, observer les mouvements de la cage thoracique et de l'abdomen. Observer qu'il y a une petite expansion à chaque inspire de la cage thoracique et de l'abdomen. Et puis, à chaque expire, au bout de chaque expire, l'abdomen et la cage thoracique reviennent à une posture de repos. Et là, comme vous êtes dans une respiration courante, normale, cette respiration, elle est toute petite. Les mouvements sont peu amples et c'est normal. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va allonger la respiration et on va amplifier le mouvement. Donc tranquillement, lentement, on inspire un peu plus longtemps et on va au bout de son inspire, comme si on voulait rendre la cage thoracique un peu plus grande, un peu plus large. Et après, on fait pareil à l'expiration. On va au bout de son expiration jusqu'à ce qu'on sente qu'on comprime un peu le diaphragme à l'intérieur dans la cage thoracique, qui remonte vers la cage thoracique. Et comme ça, on continue, inspire, expire, profondément et lentement, tranquillement. Et là, quand vous faites ça, si vous arrivez à tenir un rythme de respiration lente et profonde, où vous vous appliquez à ouvrir la cage thoracique à chaque inspire, et aller au bout de vos expires, alors vous activez le système nerveux, à la fois sympathique et parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est celui qui est responsable de la réponse au stress, mais à chaque fois que vous expirez, vous activez profondément le système nerveux parasympathique, qui annule la réponse au stress, et au bout de 5 minutes de cette respiration, c'est le parasympathique qui a gagné et qui s'est installé. Donc vous pouvez faire une dernière respiration lente et profonde. Et ensuite, vous pouvez ouvrir les yeux, bouger, remobiliser le corps et vous installer. Et peut-être vous êtes un tout petit peu plus apaisé qu'il y a 2 minutes.
Cet exercice de respiration, c'est aussi ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, c'est des exercices de respiration qu'on propose aussi, hein, que je prends, en tout cas moi je le propose régulièrement aux patientes qui viennent me voir. Il y a 2 utilisations, c'est dans un moment stressant, avant un examen, avant un podcast, on fait quelques moments de respiration, et puis on s'est rendu compte aussi par des études que de le faire de façon très régulière, 2 à 3 fois par jour pendant quelques minutes, ça diminue notre réponse au stress de façon majeure pour tous les événements qui peuvent se passer, ou de notre stress de base. Donc on va être moins anxieuse ou on va être moins stressée par des événements qui vont pouvoir se passer. On va avoir une meilleure tolérance à ça. Pour gérer cette cohérence cardiaque, pour vous accompagner là-dedans, il y a plein d'applications qui existent, qui sont des applications gratuites, vous pouvez les télécharger. Il y a une petite balle qui monte et qui descend, vous pouvez régler l'intensité, vous inspirez quand elle monte, vous expirez quand elle descend, il y a une petite voix, une petite musique si vous voulez, que, voilà, il y a plein de paramètres et c'est quand même très utile et très aidant et ça permet en fait d'avoir une Camille dans sa poche qui nous propose l'exercice.
De remettre la question de la cohérence cardiaque sur une frise historique, c'est en fait totalement issu du yoga, des pratiques qu'on appelle de pranayama. C'est important de le dire aussi parce que c'est des pratiques en fait qui sont très anciennes, qui ont des centaines voire des milliers d'années qu'on faisait depuis très très longtemps, que parfois on a l'impression de réinventer un petit peu la roue en disant cohérence cardiaque, mais en fait ça existe depuis très longtemps. C'est simple et en fait ça change tout.
Exactement. Et puis peut-être on peut rajouter 2 effets assez notables du yoga pour le trouble de stress post-traumatique. C'est toutes les consignes où on demande aux personnes d'observer leurs sensations, musculo-articulaires, leurs sensations viscérales, tout ce qui est là, sans jugement, sans analyser, sans juger. Il n'y a pas de sensation juste, il n'y a pas de sensation fausse. Et même si on ressent de l'inconfort, on reste dans l'observation, on essaye d'accueillir, d'accepter sans jugement. Et ça, pour les traumatisés complexes, c'est énorme. Les patients en général n'avaient jamais envisagé de s'observer autrement qu'en se critiquant. Le corps est soit oublié, soit vécu comme douloureux. Et donc, cette invitation à s'observer sans jugement, sans critique, de façon neutre, avec une curiosité bienveillante même, elles nous font tout un retour là-dessus, en fait. Sur « mais jamais on m'avait fait cette proposition, mais ça change beaucoup de choses. » Et après, elles le généralisent, même dans leur vie quotidienne, même lors des, parfois, certains échanges interpersonnels pas agréables. Elles se placent en observatrice, elles regardent ce que ça leur fait, et elles acceptent l'inconfort, même si c'est inconfortable, justement. Donc voilà. Et le deuxième et dernier, c'est lié à un phénomène qui est décrit en neurosciences qui s'appelle la cognition incarnée, c'est-à-dire que notre système cognitif est indissociable du corps. Et aussi, la plupart du temps, c'est notre état mental et nos émotions qui vont impacter comment on se tient et notre posture. Donc, si on a peur, on va se recroqueviller. Mais il faut savoir que si, à la place de se recroqueviller, on se redresse, et en yoga, on travaille énormément le redressement de l'axe tête-cou-tronc, alors ça va envoyer, le corps va envoyer des signaux jusqu'au cerveau de redressement, et cette histoire de prendre le buste fier, ça va permettre de se sentir confiante, fière, et ça va restaurer la confiance en soi. Donc, c'est pas du tout négligeable l'effet de la posture sur l'état mental et les émotions. C'est ce qu'on appelle la cognition incarnée.
Sur la question justement de l'utilisation du corps pour affronter les traumas, je vous renverrai à un livre que tu connais très bien, Camille, hein, qui est un livre qui s'appelle Le corps n'oublie rien, d'un auteur qui s'appelle Bessel van der Kolk, qui lui étudie le yoga, mais aussi tout un tas d'autres pratiques corporelles, je pense, ou psychocorporelles, les percussions, la danse, le théâtre, et de choses aussi traditionnelles qu'on utilise dans plein de pays dans le monde, et en fait, qui sont des pratiques qui ont fait leur preuve, ou en tout cas qui sont des pistes très très intéressantes et qui sont aussi un clin d'œil à ceux et celles qui pensent que finalement tout se passe dans la tête. En réalité, le corps est très utile, et repasser par le corps peut être très utile pour appréhender ce genre de choses.
Exactement. Ne plus avoir peur de ses sensations corporelles et se réconcilier avec le corps, c'est fondamental avant de travailler les souvenirs traumatiques.
On voit que si les souvenirs traumatiques ne sont pas correctement enregistrés, c'est le corps qui va s'exprimer. On va exprimer des douleurs, on va exprimer des impotences fonctionnelles, on va avoir du mal à faire certains gestes, ou on va avoir des mal au dos, on en a plein le dos. Il y a plein d'expressions comme ça dans le langage français qui expriment qu'en fait le corps, si vous n'arrivez pas à résoudre quelque chose qui vous a marqué psychologiquement, c'est le corps qui va s'exprimer. Et reprendre un petit peu confiance en son corps, ça permet aussi de pouvoir traverser tout ça et de réexprimer.
Alors, pour terminer cet échange, j'ai demandé à une personne que je connais qui a un parcours traumatique des pistes de comportement à avoir ou non avec une personne traumatisée, parce que finalement, c'est souvent aux personnes concernées qu'on peut demander ce genre de choses. Et j'avais envie de vous les partager parce que j'ai aussi envie qu'on reparte de là avec un peu des pistes de comportement ou des choses où on sait que voilà, si on veut être de bons alliés pour les personnes qui ont été confrontées à des traumas, bah, autant savoir un peu concrètement quoi faire. Je vous les partage, vous en rajoutez si vous voulez, vous me corrigez si vous êtes pas d'accord, on va voir ce que vous en dites. Évitez les conseils non sollicités. Fais ci ou ça, surtout si on n'y connaît rien. Demandez le consentement, même dans des situations qui n'ont pas de rapport avec le trauma initial, et notamment sur la question du toucher. Ne pas imposer des contenus, films, livres, discussions détaillées qui ressemblent au trauma de la personne. Encore faut-il savoir qu'il y en a un, évidemment. On l'a dit un peu tout à l'heure aussi, mais ne pas minimiser le ressenti, c'est-à-dire ne pas dire par exemple « ne te mets pas dans cet état, ça va, il se passe rien ». Ne pas forcer la personne à raconter ce qui lui est arrivé. C'est bête, mais en fait, il peut y avoir aussi une curiosité un peu malsaine parfois, et peut-être qu'on peut éviter ça.
Très, très souvent, quand il y a un témoignage aussi à faire devant la justice ou à la police, on leur demande plein de détails. C'est très très violent de devoir tout réexpliquer, en plus plusieurs fois dans plein de détails, parce que on sait jamais, peut-être que la personne a inventé.
Quelque chose qu'on espère faire avec ce podcast, c'est se documenter sur la question, même si c'est pas si simple, mais vous verrez, on vous met toute une bibliographie que vous pouvez trouver sur le site de Binge Audio, binge.audio, vous pourrez creuser. Aider la personne peut-être à identifier ses triggers, ses déclencheurs en cas de crise. Qu'est-ce qui t'a fait réagir comme ça ? Respecter le temps de guérison de la personne, ça j'ai trouvé ça hyper important parce qu'il peut y avoir et moi je me reconnais vachement là-dedans, une envie que une fois qu'on a identifié le problème, allez maintenant on le règle, et en fait chacun a un temps de guérison à soi.
Oui, et puis c'est généralement un long parcours, surtout le trauma complexe, ça prend plusieurs années. Un trauma simple, il peut être résolu en quelques semaines, quelques mois, mais le trauma complexe, c'est un long chemin.
J'explique souvent aux patientes que je vois, je leur dis en fait vous avez été traumatisé par un trauma complexe pendant 10 ans, ça fait un an que vous venez de vous en rendre compte, on fait la balance, hein, on se rend compte que vous allez réussir à vous en sortir, mais il va falloir avoir du temps aussi, parce que ça a été long le parcours que vous avez traversé.
J'ai quand même envie de me tourner un instant vers la salle, parce que je pense que c'est un sujet qui potentiellement réveille des choses, vous donne envie de vous questionner, de poser des questions à nos experts qui sont là pour une fois. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui auraient une question à poser ?
Vous parliez tout à l'heure de la question du genre par rapport au fait que les femmes seraient du coup plus sensibles au traumatisme. Je me demandais, je sais qu'il y a beaucoup de troubles qui sont moins diagnostiqués chez les femmes que chez les hommes, parce que les symptômes qu'on recherche, c'est les symptômes qu'on trouve classiquement chez les hommes. Est-ce que pour le trauma, il y a aussi une différence dans la manière dont ça s'exprime de manière genrée ?
C'est une bonne question et je pense que peut-être le trauma complexe serait sous-estimé chez les hommes, là, pour le coup. Mais c'est vrai que le genre, parfois, pose problème on regarde les mauvais marqueurs, entre guillemets, et du coup, on peut se passer à côté d'un diagnostic si on est un homme ou une femme, selon la pathologie qu'on regarde. Mais en effet, le trauma complexe, je pense qu'il est sous-diagnostiqué chez les hommes.
C'est sûr que selon le genre, les choses s'expriment de façon complètement différente. Une dépression chez un homme, ça va être beaucoup plus agressif ou par des comportements addictifs ou des comportements de mise en danger. Et cette dépression, en fait, elle est peut-être à l'origine de traumas. Et en fait, les personnes vont consommer des drogues, avoir des comportements très violents parce qu'il y a eu quelque chose peut-être de très traumatisant derrière. Alors que en général, chez les femmes, encore une fois, c'est une généralité, hein, mais ça va être plus de la dépression qui va s'exprimer sous façon de se renfermer sur soi ou d'avoir une anesthésie affective ou un vide affectif, et puis des émotions qui vont être en dents de scie à certains moments. Mais qu'on va peut-être un peu moins retrouver chez les hommes.
Vous avez parlé des facteurs de risque. Est-ce que vous pouvez évoquer certains facteurs protecteurs ?
Très bonne question. Avoir eu une enfance non maltraitante, avoir eu une bonne figure d'attachement, avoir grandi dans un environnement sécur. Et puis, tout l'inverse, là c'est facile, juste j'inverse tous les facteurs de risque, mais avoir hérité de gènes qui fait qu'on a les hippocampes bien volumineux. Et puis aussi, il y a vraiment à peu près 40% des facteurs de risque qui sont génétiques et 60% environnementaux. Mais il y a aussi l'épigénétique qui rentre. Donc c'est un mélange d'environnement et gènes, puisque c'est ce qu'ont vécu nos ascendants qui vont nous rendre, par exemple... Bon, alors là, excusez-moi, je retombe 2 minutes dans les facteurs de risque. Mais si nos ascendants ont vécu des traumas à cause de la guerre ou à cause d'un environnement hostile, même nos grands-parents et même des grands-parents qu'on n'aurait pas connus, ça a modifié l'expression génétique de certains gènes, ce qu'on appelle épigénétique, et ça, cette modification de l'expression des gènes se transmet à la descendance, et du coup, on hérite de cette vulnérabilité-là génétique, alors que c'est nos ascendants qui ont vécu les traumas. Donc, facteur de protection, c'est que tout se soit bien passé pour nos ascendants. Non, mais voilà, en gros, c'est vrai qu'on se focalise sur les facteurs de risque, et en dehors de grandir dans un environnement sain et d'avoir eu de la chance à la loterie de la génétique, j'ai pas trop d'idées.
Comme il y a cette loterie de la génétique, ce qui serait intéressant déjà, c'est d'essayer de comprendre dans l'environnement dans lequel ont grandi nos parents et nos grands-parents, juste pour un petit peu resituer les choses et se dire, ok, j'ai peut-être une vulnérabilité génétique parce qu'il y a eu ces traumatismes-là, comme on le fait pour les cancers du sein. Si vous avez 5 femmes dans votre famille qui ont un cancer du sein, vous allez faire des dépistages beaucoup plus fréquents et de façon beaucoup plus régulière. Donc là, c'est aussi la même chose, se dire, ah, j'ai peut-être une vulnérabilité au traumatisme parce que j'ai des grands-parents qui ont vécu la guerre et qui ont été déportés. Bon, voilà. Donc ça, c'est déjà se renseigner. Et puis l'autre chose, c'est On a parlé de l'environnement, qui, si l'environnement est assez négatif, ça va nous, ça va être délétère. Par contre, on peut essayer de construire un environnement autour de nous bienveillant. Dans un témoignage, il y avait quelqu'un qui a dit le CMP, il n'y a pas de professionnels qui sont suffisamment là. Et c'est mon copain et mon entourage amical qui m'aident. Et donc c'est ça, c'est avoir des personnes autour de nous qui, quand on va leur parler de choses traumatisantes, vont pas minimiser ce que je vais raconter, vont être là pour écouter et vont croire et vont valider ce que je vais raconter. Et ainsi de suite. Donc ça, s'entourer de personnes bienveillantes, ça peut être une bonne chose.
Facteur protecteur important, oui. Même à l'âge adulte, du coup, avoir un environnement d'entourage bienveillant.
C'est souvent la conclusion de ce podcast, hein, c'est la question du groupe, de la communauté. On a parlé plusieurs fois de community care et c'est sur ça qu'on conclura cet épisode. Camille Allen, Daniel Batoula, merci infiniment pour cette conversation. Je vous renverrai au site de Binge Audio, binge.audio, aux réseaux sociaux d'Encore Heureux, Encore Heureux Podcast sur Instagram. Merci à la Gaîté Lyrique, évidemment, pour leur accueil. Merci au public d'avoir été là. L'émission a été réalisée par Tila et Ravu, produit par Charlotte Bex. Les témoignages ont été lus par Charlotte Bex et Alban Philly. À bientôt.
Découvrez vite la première ovo-sitcom de Paradiso Media. Marie et les œufs en neige.
Marie, c'est moi, et j'ai 36 ans. L'année dernière, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé que j'étais célibataire, que j'avais pas d'enfants, et que bientôt il serait trop tard pour en avoir des enfants. Alors je me suis posé plein de questions. Est-ce que je congèle mes ovocytes? Comment j'en suis arrivée là? Est-ce que j'en veux, des enfants? Et surtout, pourquoi on fait des enfants, en fait? Cette question-là, je l'ai posée à beaucoup de monde. Et vous allez voir, c'est pas simple.
Marie et les œufs en neige, c'est une série en 6 épisodes à écouter dès maintenant dans le podcast Journal Intime.